Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque samedi, nous plongeons dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans Toute une vie. Romancier transgressif, homosexuel radical, mais aussi énarque, magistrat, éditeur, Guillaume Dustan, portrait d'un écrivain marginal et sulfureux. À nos auditeurs, dans ce documentaire sont diffusées des lectures qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Afin de les prévenir, ces passages explicites seront précédés d'un long bip sonore. Antoine Ravon et Gilles Mardi-Rossian signent Guillaume Dustan, 1965-2005, Toute une vie à la recherche de la liberté.
Je vis dans un monde merveilleux où tout le monde a couché avec tout le monde. La carte s'en trouve dans les revues communautaires que je lis assidûment. Bar, boîte, restaurant, sauna, réseau, minitel, lieu de drague. Dans ce monde, chacun a baisé avec au moins 500 mecs. En bonne partie les mêmes d'ailleurs. Les mecs qui sortent. On a le choix. Beaucoup de choix. Et personne ne souhaite fonder une famille. On est un ou deux. Pas plus dans ce monde. Sauf quand il y a pour un temps plus ou moins long un esclave à la maison.
Dans ma chambre, publié en 1996, est le premier roman de Guillaume Dustan. Il inaugure sa trilogie dite autopornographique. Viendront ensuite des textes plus politiques, Nicolas Page, Génie divin et Élixir. En 2004 et 2005 paraissent Dernier roman et Premier essai. Guillaume Dustan meurt en 2005. Son côté provocateur nuira durablement à Dustan, souvent réduit à ses dimensions sulfureuses. Et 15 ans plus tard, il nous paraît temps de lui redonner un peu de sa complexité et de sa sensibilité. Nous, c'est Hugues Jourdain, comédien qui a adapté Dans ma chambre au théâtre, et moi, Antoine Ravon. Ensemble, nous vous proposons d'aller à la rencontre des proches de Dustan, souvent si proche qu'il l'appelle par son nom de naissance, William Baranes. La première s'appelle Lisa Rinkowska, c'est sa mère.
Et vous étiez déjà venu ici?
Dans ce café-là? Dans celui-ci?
Dans ce bar, oui.
Non, jamais. Alors?
Vous savez où on est?
Ah oui, 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 alors vous m'avez dit, tu m'as dit que William, il passait du temps ici, c'est ça?
Oui, il le mentionne souvent dans ses romans.
Alors, il s'appelle comment? Strike Rose? Strike Pose?
Le Quetzal.
Ah oui!
On peut le prononcer à la française.
D'accord.
Sans peur.
D'accord. Ok, chérie.
Qu'est-ce que vous...
Mais c'est vrai qu'il habitait. Il habitait plusieurs adresses autour, quoi. Voilà.
Parce qu'il a habité à plusieurs endroits près d'ici?
Ici, oui. Ah oui, beaucoup d'adresses ici. Au minimum. 3 ou 4 lieux, puisqu'il déménageait tous les 6 mois. Donc 3 ou 4 lieux, oui.
Toujours dans le ghetto, alors?
Oui, en quelque sorte.
C'est lui qui dit le ghetto?
Oui, 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 oui. Enfin, il n'avait pas tout à fait tort pour l'époque. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est maintenant.
Et qu'est-ce que vous imaginez qu'il faisait dans ce bar, par exemple?
Dans ce bar, il draguait? Qu'est-ce qu'il faisait?
Ben justement, la première fois qu'il mentionne Nelson, Marcelo, dans ses romans, ouais. C'est ici, c'est au Quetzal. C'est là que commence leur rencontre.
Et ils se rencontrent ici. C'est beau, c'était émouvant. C'était émouvant.
Et est-ce que justement ce mode de vie vous a fait peur ?
Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, et puis je me suis dit, en fait c'était un mode de vie tellement déchaîné quand ça a commencé, que je me suis dit que c'était tellement excessif que ça allait passer vite. Et ben, ça n'est pas passé, c'est resté excessif. Et finalement, alors, comment revenir au passé en étant sûr qu'on ne raconte pas... qu'on parle vraiment de ce qu'on ressentait à l'époque, quoi. Peur. Bon, comme toutes les mères de garçons gays, j'avais peur qu'ils deviennent séropos, évidemment. Et il est devenu assez vite, avec un accident de capote qui s'est passé à Bruxelles. Donc, je le verrai toujours arriver à la maison, me disant... En tombant à la renverse sur mon lit, j'ai quelque chose à te dire, et mettant la main sur ses yeux et son front, d'accablement, quoi. Je suis séropos. Je suis devenue séropos. Et moi, j'avais rendez-vous au palais de justice pour aider un ami qui passait en... un petit procès de rien, quoi, un petit truc. Mais je voulais être là pour... par amitié. Et donc, je n'avais pas une seconde à accorder à William, quoi. À ce moment-là, il fallait que je parte en courant. Et je suis partie en courant. Voilà. En le laissant allongé, terrassé... sur mon lit et sans dire un mot, en fait. Donc, voilà. Ah oui, si, je lui disais, attention, tu vas te faire tuer. Parce que je connaissais ces pratiques sadomaso qu'il raconte, dont une où vraiment c'est terrifiant, quoi. Et où on se dit que le mec en face, ou les mecs en face, je ne me rappelle plus, ou le mec en face... on se dit qu'il va passer à l'acte, quoi, qu'il va le tuer pour de bon, parce que ça peut arriver. Donc je lui disais, fais attention parce que tu vas te faire tuer. Et il me disait, non, je ne cours aucun risque, ne t'inquiète pas.
Et au-delà des actes, on le voit souvent danser dans ses films et il écrit souvent qu'il danse. Vous avez des souvenirs de lui qui danse ?
Oui. Et moi, je suis émerveillée par mon fils en train de danser. Voilà. Je suis juste émerveillée, c'est le mot juste. Et la première fois que je l'ai vu danser, c'était à la maison, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de fêtes chez moi à la maison. Et j'étais avec un ami chanteur, Manfei Aubin, ouais. Et qui était musicien, chanteur. Et William avait 13 ans. Et on regardait William danser, c'était magnifique. 13 ans, tu vois, il était encore, vraiment, il avait encore un aspect de tout jeune ado. Il aurait pu avoir l'air plus vieux, mais non, 13 ans, il faisait tout jeune ado. Et je dis, mon fils, regarde, il est sauvé. Il est sauvé, la danse le sauve, quoi. Parce que je le trouvais trop intelligent. Et j'essayais toujours de le ramener vers moi. Si possible, moins d'intelligence, moins de... Parce que les gens très intelligents sont pas très heureux, en général. Donc, je m'inquiétais de ça, de ce trop d'intelligence. Voilà, et je lui dis, regarde, il est sauvé, quoi. Parce qu'il dansait, c'était... Il pouvait dire, je suis la danse. Voilà.
Guillaume Dussang.
Ok. Une autre main m'a pressé la nuque vers le bas, je savais ce que ça voulait dire, et comme j'étais surexcité, je suis descendu sur la bite. C'est un truc bon, que je raconte, c'est j'avais 22 ans, c'est la première fois que je vais en backroom, donc il y a déjà plusieurs pages avant. J'ai reniflé, elle ne puait pas, alors j'ai commencé à sucer, et c'est là qu'Emmanuel m'a lâché. Emmanuel, c'est le copain derrière moi qui me tient parce que j'ai trop peur. J'ai arrêté de pomper, mais je suis resté plié en deux, fasciné par ce que je voyais, la bite que je suçais, ses mains, ses entrejambes, tous ces corps de plus en plus indistincts qui m'entouraient. Je pouvais m'engloutir dans ce magma de mains, de bites, de bouches. Je pouvais me mettre à ne plus rien en avoir à foutre, de savoir à qui appartenait quoi, qui était vieux, moche, contagieux. Je pouvais très bien partir, devenir fou, bouffer chaque bite qui passait, devenir une bête, ressortir des heures après les vêtements déchirés, tachés, nus, couverts de sueur, de salive, de sperme. J'imaginais déjà comment les bourgeois du trap me regarderaient comme une salope, une traînée. Je me suis redressé d'un bond, les larmes aux yeux. J'ai trébuché jusqu'à la sortie en retenant mon jean avec les mains. Je me suis rhabillé sur le seuil, le cœur battant, sans oser regarder devant moi.
C'est vrai qu'on est près de Saint-Paul.
Vous savez ce que vous prenez ?
Oui, un crème.
Un crème, c'est vrai.
Alors, en fait, on devrait parler surtout de la lecture du premier livre. Le premier, dans ma chambre. J'étais allongée sur mon lit à la campagne. Et c'était le matin, l'après-midi, je ne sais pas, mais enfin pas la nuit. Et il me le tend en disant, tiens maman, le livre de ma résurrection. Donc quelle mère ne serait pas heureuse de lire le livre de la résurrection de son fils, puisqu'il était assez déprimé. Et je tombe sur Dans ma chambre, enfin, qui est vraiment un sacré bouquin. Donc, le premier bouquin de Wigard, mais la première fois que je lisais un livre écrit par quelqu'un qui est homosexuel, quoi, et avec une sexualité décrite de manière extrêmement précise, crue, sans faux semblant, etc. Donc, je téléphone à une amie qui avait aussi le livre, qui était allée l'acheter, puisqu'il était sorti en librairie. Donc, elle me dit « Comment tu fais pour arriver à lire le livre ?» Je dis, je ferme les yeux. Chaque fois qu'il est question de cul, de sexe, je ferme les yeux et j'attends le... Elle me dit, oui, tu fermes les yeux tout le temps. Alors, parce que je dis, oui, en effet, je passe mon temps. Voilà, et puis on s'habitue. Voilà.
Est-ce que vous savez pourquoi il a choisi le nom de Dustan ?
Tout à fait. Dustan était un saint, S-A-I-N-T, irlandais, du XIIe siècle, Saint Dustan. Comme William était un saint, il était très normal qu'il se prenne un nom de saint. Et puis Guillaume pour William, évidemment, parce qu'il trouvait idiot qu'on l'ait appelé William. Donc ça donne Guillaume Dustan. D'autre part, comme il était très malin, intelligent, dans le sens intelligent, il savait qu'ainsi il serait sur les étagères des librairies et des bibliothèques à côté de Marguerite Duras, Duras Dustan, ce qui est effectivement le cas. Donc la double raison, Saint Dustan et Marguerite Duras.
Il y a des passages assez beaux dans l'écriture de Guillaume Dustan. C'est quand il parle de sa mère et de son père. Dans Plus fort que moi, son troisième roman, il commence par parler d'eux. Il va raconter son histoire et l'histoire de sa sexualité dans l'ordre chronologique quasiment. Et il va commencer par raconter son enfance, son adolescence, et notamment son rapport au père. Je n'ai pas assez de souvenirs d'enfance. Avant 5 ans, rien. Plus tard, quelques épisodes. Les cadeaux à l'école maternelle. J'avais eu le droit de choisir parmi les premiers dans tous les super trucs à cause de ma place dans l'ordre alphabétique. Les cabanes faites avec des chaises et des couvertures dans le salon de l'appartement. Les combats de boxe arbitrés par mon père entre moi et ma sœur. Je m'excitais comme un fou. En vacances, en Corse, j'avais 5 ans. J'ai traité de chien le voisin avec qui on jouait. Maman m'a disputé. Je regardais les maillots de bain des hommes, celui de mon père. Mon père était le soleil. Il n'a pas voulu de ça. Il s'est détourné de moi. Il m'a laissé. Je suis resté seul, en cendres, froid, mort. Il a épousé ma mère, qu'il avait rencontrée alors qu'il avait 17 ans. Elle était belle. 2 enfants sont nés. Sur les photos, on ne voit que ça. Son envie de se tirer. Il a fini par le faire. Quand j'avais 7 ans, ma sœur 6. Il est parti avec une autre femme, riche. Mon père était bel homme, toujours parfaitement habillé, sans extravagance aucune, sans humour, sans amis. Il se prenait pour la loi, il exerçait son pouvoir, il refusait. Je voulais tellement qu'il m'aime, mais c'était impossible. Je ne me suis jamais rebellé. J'ai obéi quand il m'a interdit de continuer l'écharpe marron que j'avais commencé à tricoter pour ma mère. Je devais avoir 10 ou 12 ans. Je me suis incliné quand il s'est opposé l'un après l'autre à chacun des projets qui m'auraient fait grandir. Je ne suis jamais passé outre. Je ne pouvais pas supporter qu'il me désapprouve. J'ai juste eu le droit d'arrêter ma terminale C et de passer en A quand Françoise Chénis, on était amis depuis la sixième, a été empoisonnée par son père, toxicologue à Fernand Vidal, il savait comment s'y prendre, en même temps que Daniel, sa sœur cadette, avant que le bon docteur ne flingue sa propre mère et n'aille se suicider en forêt de Chartres. Sa femme était morte d'une leucémie quelques années plus tôt. Je devais être avec eux à la campagne ce week-end-là, le premier week-end de septembre. Monter à cheval avec Françoise. Et puis aussi, c'était une sorte de tradition. Faire la fermeture de la piscine municipale de Châteauneuf. Je ne sais plus pour quelle raison je n'y suis pas allé. J'ai toujours pensé que si j'y avais été, je serais mort moi aussi. Un an après, j'ai revu Françoise. En rêve. Elle m'a raconté ce qui se passait pour elle et pour Daniel. Ça a duré pendant des années. En rêve, elle n'était jamais morte. La seule chose que j'ai pensée, c'est que Françoise n'était pas morte vierge. Elle avait eu son premier mec l'année d'avant. Daniel était trop jeune. J'ai sans doute eu peur de finir comme elle. Marcelo me regarde sur la photo que j'ai de lui, sur le bureau où j'écris. Il ressemble à mon père. Ça me fait peur. Et puis, je me dis que ça n'a rien d'étonnant. Au contraire même, c'est sans doute ça qui m'excite. Mais il y a de grandes différences. Il me sourit, il me donne, il m'apprend à ne pas me détester. Alors je suis tranquille. Je sais que ce n'est pas comme avec mon père, comme avec Quentin. Avec eux, je n'existais pas. Je n'étais qu'un appendice. C'était des gens pour qui il n'y avait qu'eux. Des gens qui ne savent pas ce qu'est l'amour.
J'ai une image de lui qui est incroyable, où je le pousse dans une poussette, ce qui n'était pas mon truc. Je n'allais pas au jardin. J'y suis allée une fois. Ça m'a découragée. Et il était dans une poussette et à l'époque, les poussettes étaient comme elles devraient être depuis toujours, comme elles ne sont plus. C'est-à-dire que l'enfant était dirigé vers toi. Et donc je revois toujours cette espèce d'éclat, de bonheur. Enfin, il me regardait avec amour. C'était un véritable soleil, un rayonnement. C'était un enfant rayonnant. Voilà, c'était un enfant absolument rayonnant. Et ça, c'est formidable, ce rayonnement. Et en somme, il l'a toujours gardé, parce qu'il a été le chouchou de toutes ses copines, la bande, la fameuse bande, Sandrine, Virge, etc. Et tout le monde a toujours adoré William. Il a eu quelques... Il a eu des détracteurs, évidemment, c'est normal. Et il me disait « Ah, maman, je voudrais que tout le monde m'aime !» À 25 ans, je ne sais pas quel âge. Je lui dis « Bon, bah, écris des choses consensuelles et tout le monde va t'aimer. Voilà, c'est là. C'est la seule manière d'être aimé de tous, hein, mais ce n'est pas toi, quoi. »
Et les autres amis du stand, vous les avez connus ? Tim, Philippe ?
Oui. Oui. 3 semaines, je crois, avant la mort de William, il a eu la très bonne idée d'inviter Tim et Phil à la campagne. Et on a passé un week-end formidable. C'est là que je les ai connus. Heureusement qu'il les a invités à la campagne ce jour-là. Sinon, je ne les aurais probablement jamais connus. Et ce sont des... Vous les avez rencontrés ? Hein ? Ben, c'est des... Ce sont des gens très chouettes, quoi.
Dans Je sors ce soir, et qui parle de toi, et donc il te décrit à la soirée. Ce soir, il est visiblement en hyper forme, parfaitement looké, avec un petit collier noir et une chemise genre 60s en rayonne ouverte sur ses gros biceps et ses pecs ronds égorgés. J'abrège quant à son nez et ses lèvres épaisses et toujours mouillées. J'ai toujours voulu me le faire, mais sans succès. J'ai connu quand il était l'amant régulier de Quentin, il y a 5 ans environ. À cette époque-là, ça ne s'est pas fait parce qu'il était un peu amoureux de Quentin, je pense. Quentin, de son côté, me donnait tous les détails sur la manière dont ça se passait au lit, et ce qu'il disait était tout à fait crédible, donc je bavais. En plus, j'ai eu d'autres échos, bref. Et plus récemment, l'été dernier, alors qu'on fumait un pétard surdosé, là où je squattais à Belleville, ce qui aurait pourtant dû être favorable, il m'a dit, quand j'ai ramené le sujet, qu'il ne pourrait plus maintenant parce qu'on se connaissait trop. Et merde.
Ouais, en fait, chez William, il y a un truc d'empowerment et d'encouragement, en fait. Et vachement souvent, dans les portraits qu'il dresse des gens autour de lui, il est positif énormément. C'est-à-dire qu'avec la réalité des gens, il leur renvoie une sorte d'image du moi idéal qu'il pourrait avoir. Et il était assez bon pour déceler qu'est-ce que c'était l'image idéale de quelqu'un, en fait, de ce qu'il pouvait voir. Non, tu n'es pas d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que la description qu'il fait de toi, elle est parfaitement parfaite. Elle est très très bien. c'est vraiment toi. Et puis je t'ai connu en 98 et t'avais en effet ce torse, ces lèvres, cette bouche, la petite chemise
en rayonne.
Je pense pas l'avoir connue, mais le petit collier.
Ouais. Toi, t'es un tout petit peu plus jeune que nous, mais il y a un moment où William et moi on avait un an de différence. Et au début des années 80, il y a vraiment eu un moment où on a cru, parce qu'on était ados, qu'on était enthousiastes, parce que c'était le monde, que les choses allaient se simplifier. On a vraiment cru que le monde allait se simplifier, qu'on allait vers moins de coinçage dans la société, que ça serait pas forcément la peine de forcément rentrer dans un système de compétition et de faire des études et machin pour s'en sortir. Même si William et moi, on est d'une façon totalement différente d'aborder ça. Lui, il a joué le jeu, il a fait l'ENA. Moi, j'ai dit, j'ai pas envie de faire d'études, ça me gave. Je veux réussir sans. Voilà. Chacun prend son côté. Mais dans les années 80, on avait l'idée que le monde allait se décoincer. Et c'était une sorte de nouvelle modernité. D'ailleurs, on s'appelait les jeunes gens modernes. Il y a un extraordinaire bouquin là-dessus. Et c'était ça, quoi. Donc, on pensait que tout était possible. Donc, pourquoi s'interdire de penser, effectivement, qu'un jour, les femmes ne porteront plus l'enfant et qu'on n'aura plus besoin d'avoir cette phrase « Tu accoucheras dans la douleur ».
Oui, c'est ça.
En fait. Donc, à la fois, on est projeté dans l'avenir et à la fois, on est complètement pétri du passé.
Puis surtout, il faut essayer de se marrer un peu, quoi.
Et arrêter d'être hypocrite aussi. Donc il y avait ça, et puis par ailleurs, on avait à la génération de William et moi, surtout dans nos espèces de milieux parisiens, un rejet, mais viscéral, de la génération d'avant, c'est-à-dire de nos parents. C'est-à-dire on avait un rejet viscéral de tout ce qui était baba, hippie, 68, les communautés. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je suis avec une très bonne amie. Elle ne peut pas supporter l'idée même de vivre en communauté parce qu'elle a passé son enfance dans un deux pièces avec des réfugiés chiliens. Et voilà, donc on avait ça, quoi. C'était vraiment un truc très très basculant par rapport à aujourd'hui. On était le coup de la révolution, le machin bidule, on disait mais allez vous faire foutre. Et on était très. On en voulait beaucoup à nos parents de nous minimiser dans notre rôle qu'on pouvait avoir pour changer le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on avait vraiment l'impression qu'on nous reprochait de pas être révolutionnaire, de pas vouloir changer la société, d'être consumériste. Voilà. On n'avait pas le coup des oranges à Noël, mais pas loin. Non, moi, j'ai pas eu ça. T'as eu ça, toi? Ouais, moi, j'ai pas eu ça. Mais, sur le mode, vous laissez aller, vous n'avez pas d'idéal, machin. On s'est pris ça dans la gueule, mais on s'est aussi pris le sida dans la gueule. Donc, grosso modo, on se tapait le sida, qui était quand même une espèce de catastrophe absolument impensée, et la non-possibilité d'en discuter sérieusement avec nos parents. Qui nous reprochait de pas faire la révolution. Voilà. Donc, c'était un peu ça, le truc, le substrat, des années 80-90, disons.
Et en l'occurrence, est-ce que c'est chez Dustan, est-ce que c'est la séropositivité qui lui a permis de décrire et de mener une vie plus radicale que la vie de magistrat qui commençait à mener?
En fait, le rapport à la mort de William, enfin de Dustan, pardon, le rapport à la mort de Dustan, il est plus défini par ce qu'il raconte dans
Plus fort que moi.
Plus fort que moi.
Plus fort que moi.
La mort de sa meilleure amie.
Ouais.
Je pense que ça, cet épisode-là. Ouais. Il est beaucoup plus fondateur de son angoisse par rapport à la mort, puisqu'il a l'impression d'y avoir échappé d'une façon miraculeuse.
Ouais.
Et en même temps, le fait qu'il en réchappe ne le soulage pas du deuil de la perte de son ami, ce qui est effectivement une situation que beaucoup de séropositifs connaissent après l'an 2000. En même temps, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça, et c'est vrai. Et par ailleurs, sur le sida, effectivement, dans ma chambre, c'est écrit « Autant du sida ». Mais tous les autres, hein, c'est écrit « Après le sida ». Et quand je dis le sida, c'est 96, c'est-à-dire les antiprotéases. C'est-à-dire que tout ce qu'il écrit avant 96, c'est de la littérature du sida, parce qu'il y a le sida et qu'on en meurt. Tout ce qu'il écrit après 96, c'est de la littérature post-sida, parce qu'il sait qu'on est sauvé. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose, en fait. Le truc compliqué, c'est que on lit dans ma chambre, en même temps qu'on apprend qu'on va pas mourir. Et en fait, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en fait.
Alors, je cherche quelque chose de répétitif, mais pas trop froid. Ah tiens, la 6 doit être bien adaptée d'après le titre. Intoxication. Oh! En effet, c'est bien. La basse.
et sourde et cool. Ah, de temps en temps, il y a même des paroles. Une voix qui susurre funky. Mawiwana. Ça, je ne m'en rends compte qu'au troisième code, le gros noir. On a commencé par le rose fluo hyper mou que j'avais acheté à Pleasure Chest West Hollywood quand j'étais parti il y a 2 ans entre 2 hospitalisations et qui est parfait pour ouvrir un cul en douceur. Puis, un rose plus imposant, le Kong, 23 par 17. Maintenant, le gros double noir acheté à Berlin et qui fait 19 de tour. Je le prends jusqu'à la moitié. L'énorme rose qui fait 21 est sorti à côté. Je ne le prends jamais parce qu'il ne passe que quand je suis hyper défoncé. Donc ce soir, avec le quart d'acide, la coke et tous les pétards que j'ai fumés, je vais pouvoir me le taper et je sais que c'est une sensation assez royale qui m'attend. Un truc largement aussi délirant que le saut en parachute ou la plongée sous-marine. J'aime les sensations fortes. On y va ? C'est parti.
C'est très osé d'écrire comme ça, quoi. C'est très, très osé. C'est très culotté, quoi. Cette phrase, elle est dingue. Enfin, elle est éclatante de simplicité. C'est là où il fait preuve d'autorité. C'est qu'il se permet d'écrire comme il parle et ça fait littérature. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est, pour moi, une très grande autorité. Et moi, je l'ai vu écrire. C'est du premier jet. C'est quelqu'un qui ne réécrit pas. Parce que ça le fait chier. Et il le dit. Ça m'emmerde de travailler, quoi. Nicolas Page, c'est le seul livre pour lequel il a accepté l'idée de retravailler le manuscrit pendant 6 mois. C'est un calvaire. C'est du premier jet. Et c'est brillant.
Je retrouve un peu de liberté en faisant ces films. Parce que pour l'écriture, je suis tellement un truc politique, je sais pas quoi, n'importe quoi, correct.
C'est ça qui vient avec le dessin, c'est que je me sens sur toi, quoi, justement. Mmh. Mais c'est-à-dire que t'as pas encore monté, donc les films.
Ah, mais je compte pas les monter.
Ouais, ça, c'est complètement.
ça va être des films de 3 heures, pas montés. En fait, je fais le montage au fur et à mesure que je filme, c'est-à-dire que quand j'en ai marre, je coupe. Tu vois ?
Alors, en fait, quoi ?
Ben, quand j'en ai marre, je coupe. Tu vois, j'arrête de filmer, quoi. Puis je passe à la suite. Et je considère que c'est ça, le montage, quoi.
C'est pas ça du tout, le montage.
Mais si, c'est ça. Pourquoi ? C'est quoi, sinon ?
Ben, je pensais que c'était... Non, mais pourquoi pas, c'est égal.
Super clean. Et tight. Non, ça reste un de mes carrefours préférés au monde. Hein. Peut-être à cause des tramways. Ce moment d'approche tellement intense. L'amour. C'est sa rue. C'est son trottoir. C'est mes pieds qui marchent. Verre de soulagement. Quelqu'un qui m'aime me comprend. C'est l'arbre de l'entrée. Ce sont les bourgeons. Très beau. C'est son nom. C'est lui. C'est la porte. C'est lui.
Coucou.
C'est son appartement. C'est très new school. C'est nouveau tout ça. D'ailleurs. C'est joli. Chut. Je veux pas que je dise des trucs.
Mmh.
Coucou. Est-ce que tu veux bien que je fasse ce film sur toi au fait ? Parce que si tu ne donnes pas ton accord, tu auras du mal à projeter.
Avant de devenir écrivain, Guillaume Dustan a été magistrat administratif formé à l'ENA. Il a même publié des ouvrages juridiques avec son amie et professeur de droit, Marie-Anne Frison-Roche. nous nous sommes demandé s'il subsistait des traces de cette formation intellectuelle chez le Dustan écrivain.
On s'est rencontrés par hasard en étant assis à côté l'un de l'autre en licence de philosophie à Paris 4. Et nous sommes entendus pour sans doute deux raisons. La première, c'est que nous étions particulièrement bien intéressés l'un et l'autre à un cours qui portait sur la philosophie hébraïque. Et d'autre part, c'est William qui est venu me voir parce que il trouvait que dans la façon si convenable dont j'étais habillée, dont je continue à être habillée, il y avait mes chaussures qui ne correspondaient pas tout à fait à la façon dont quelqu'un de parfaitement convenable doit être habillé. Donc, en conséquence de quoi, il s'est assis à côté de moi et nous avons commencé à engager la conversation. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de William Baroness.
De toute façon, moi, très franchement, ce que je voulais devenir, c'était reine des lesbiennes. Et maintenant, ça y est, je veux dire, bon... Au sens où, j'explicite un peu quoi, au sens où, comme, bon, c'est Bourdieu qui l'avait dit quoi, il faut que quelqu'un se dégage chez les homos parce que c'est eux qui ont le plus fort coefficient de rébellion et le plus fort taux de réussite universitaire comme groupe. Mais c'est super difficile parce que justement, comme il y en a plein, il y a une grosse concurrence. Voilà. Mais le jour où il y en aura un qui, il pourra vraiment entraîner la société dans le changement. Et c'est sa postface à la domination masculine. D'accord ? Où il dit ça. Ok ? Donc moi, je l'ai lu et de toute façon, c'était ce que je voulais faire. C'était prendre le pouvoir chez les BD. Bon. Au départ, moi, c'était pas dans l'idée de changer la société. Mais en fait, assez rapidement, si, quoi. Parce que chez les PD ou chez les gays ou c'est ce que vous voulez, on en a maintenant une grille de lecture du social qui n'est pas seulement de nous, on a une grille de lecture de l'ensemble, d'accord ? Qui consiste à renverser le monde, ou la dialectique, ou le truc, vraiment, l'ordre social, parce qu'on dit l'hétérosexualité est un régime politique, l'hétérosexualité est obligatoire. Hein, Monique Wittig, et on dit la genration, l'assignation au genre, homme ou femme, est obligatoire, et nous on conteste cette obligation, on dit elle n'a pas lieu d'être. Voilà. Bon. Et donc, on fait, ou ça entraîne, une relecture de Freud.
Vous dites nous, c'est qui ?
Moi.
Il voulait, par sensibilité puis souci d'autrui, il voulait changer le monde, il voulait que le monde soit moins violent. Ce qu'il exprime très très bien quand il dit « je veux que le monde soit cool, je voudrais que la vie soit cool ». Quand il dit ça, ce qu'il ne va pas dire sous le même vocabulaire quand on est entre juristes, parce que « cool » ça n'existe pas comme catégorie en droit, mais on dira par exemple « dignité humaine ». Qui fait qu'on n'a pas le droit d'injurier les personnes parce qu'ils sont noirs, arabes, juifs ou homosexuels. Non. Non, ça, c'est pas cool. On va dire en droit constitutionnel que c'est contraire à la dignité humaine et on va condamner au pénal parce que ce sont des délits. Mais c'est dire la même chose. C'est vraiment dire la même chose, soit en droit, soit en vocabulaire de Guillaume Dustan, en disant on voudrait que chacun puisse vivre d'une façon cool. Ensuite, on parlait assez souvent sans doute de cette sorte de difficulté pour un homosexuel de vivre dans une société construite par et pour des hétérosexuels. Et donc, je pense qu'en France, c'est en quelque sorte pas de veine d'être homosexuel dans la société. Peut-être pas dans une famille, peut-être... Mais en tout cas, dans la société globalement, c'est pas de chance. Mais en quelque sorte, être une femme, c'est pas de chance non plus. Et comme William était plus pur que par exemple moi qui suis plus réaliste que ça, j'aurais tendance à dire bon ben voilà, je suis hélas pour moi je suis une femme, ben je fais avec et je vis dans un monde d'hommes, et ben je fais avec cet handicap, c'est comme ça. Vous avez tiré un, vous êtes au une table de jeu, vous avez une mauvaise main, femme, mauvais jeu. Homosexuel, mauvais jeu. Ben, je fais avec. Et William était tellement gentil et tellement dévoué pour les autres qu'il dit « Non, moi, je veux que ce soit une bonne main. » Et donc, je veux que les homosexuels, ils soient aussi bien traités que les hétérosexuels. Bon courage, hein, William. Hein, non, mais peut-être tout mon soutien, mais... Et donc, ce qu'on pense fortement avec William, c'est que le droit tel qu'il doit être est une réaction chimique efficace à l'injustice. Si l'on comprend ce que c'est que l'injustice, on comprend ce que doit être le droit. Mais savoir ce que c'est que le droit, tout le monde le sait, puisque tout le monde sait ce que c'est que l'injustice. C'est le droit, c'est le faire en sorte de l'arrêter. Donc, si on sait ce que c'est que l'injustice, et nous le savons tous, puisque nous l'avons tous vécu à plus ou moins forte dose. Alors, comme William l'avait vécu à une dose maximale, eh bien, il disait, mais moi, je sais particulièrement bien ce que c'est, ce que doit être le droit. Et donc, j'exige que cette réaction, elle soit concrètement réalisée par le juge. Tiens, à propos, j'en suis un. Par le législateur, tiens, à propos, mes copains énarques, là, ils vont devenir, je compte sur eux, ministres, députés, présidents du Sénat, enfin bon, qui se débrouillent pour être les institutions, et par concrétiser ça, d'ailleurs, ça va se passer, d'ailleurs, le monde va devenir moins injuste.
Est-ce que vous pensez qu'il a réussi à faire avancer le monde vers plus de justice ?
Je pense pas, non. Je pense pas que William ait réussi à faire avancer le monde vers plus de justice parce que William était à la fois très optimiste et il était aussi dans ce qui est une étrange conviction, comme quoi, de nature un peu christique, comme quoi la souffrance elle-même est apte à faire reculer l'injustice, que la souffrance que l'on peut ressentir permet de diminuer la souffrance d'autrui. Oui, il faut être un peu carmélite pour penser ça. Le carmélite pense que en priant, cela suffit à diminuer la souffrance à l'extérieur du Carmel. Et William était persuadé que l'intense souffrance qui était la sienne pouvait contribuer à rendre le monde moins en souffrance. Moi, je n'ai pas une vision aussi pure que la sienne, qui pensait que en montant au Golgotha comme il l'a fait, par exemple avec les médias, par exemple en ne mentant pas, par exemple en répondant véritablement aux questions qu'on lui posait, donc en s'attirant les colibés, par exemple, en s'attirant des questions de plus en plus cruelles, en s'attirant tout ça, c'est-à-dire en accroissant la souffrance que lui causait le monde, il allait ainsi réparer le monde.
On peut dire sans se tromper et en décrivant le réel, je crois hein, qu'il y a des gens qui sont d'accord pour souffrir jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain degré. Et de vivre certaines choses, d'apprendre certaines choses, de ressentir certaines choses jusqu'à un certain point. Une expérience de la souffrance, je vois pas comment on peut les dissocier, quoi. Les intellectuels, ils s'intéressent plus au monde moderne et ils disent rien. Enfin, le silence des intellectuels, ça c'est pas terminé. Les intellectuels, c'est nous. Et on ne nous considère pas comme des intellectuels. Personne n'a dit que j'étais un intellectuel. Les universités, ça fabrique du ronron. C'est vraiment un avaté pour chat. Et il y a zéro parole sur le réel. Bon, voilà, et ça dure depuis 1980, donc... 23 ans. C'est une époque, hein. C'est intéressant. Comme paysage. C'est la terreur. Il y a zéro parole libre.
Qui dit ?
Je ne sais pas beaucoup.
Guillaume Dustan est auteur de films et de livres. C'est aussi un éditeur. Il a créé, en 1999 chez Ballant,
la première collection LGBT, lesbien, gay, bi, trans, en France. Sam Boursier, activiste et théoricien queer et transféministe, y a publié le premier volume de sa trilogie Queer Zone.
Et vous avez vu en lui l'aspect du juge qu'il était, le magistrat qu'il avait été ?
Non, alors là, pas du tout. Alors ça, mais pas un instant, quoi. Non. Ça transparaît. Enfin, non. Ni la culture juridique, ni un rapport au droit, ni même, je sais pas, parler du droit. Bon, à l'époque, on parlait moins du droit à la politique. LGBT se résumait moins au droit que maintenant, parce que maintenant, on parle que de ça. Enfin, dans les politiques réformistes, LGBT, un petit peu très visible. Ah non. Rien. Non, il parlait de drogue, il parlait de musique, il parlait de sexe, ou il parlait pas. Parce que c'est pas quelqu'un... Enfin, le côté laconique... Donc, c'est pas quelqu'un qui était un verbeux non plus, c'était pas quelqu'un qui... Ça m'a pas marqué, on va dire. C'est-à-dire que moi, le droit, ça fait mille. C'est-à-dire que moi, je tape sur le droit toute la journée, donc, la logique queer, c'est pas qu'elle est anti-droit, mais si, quand même. Parce que le droit, c'est ce qui codifie les gens de la manière la plus idiote. On le voit bien, tu vois, là, on se marie entre personnes du même sexe. Si c'est pas stratégique, le droit, moi, je trouve que ça a aucun intérêt. Mais lui, il avait une attitude, ben, on le voit quand il allait dans les émissions, les plateaux de télévision, à Ardisson. Tu vois, toujours cette tendance à dire, oui, on devrait avoir le droit de se marier, on devrait avoir le droit, on pourrait faire les enfants. Donc lui, il tenait un discours là-dessus en utilisant le droit. Et moi, je fais jamais ça. Et je le faisais déjà jamais à l'époque. Et maintenant, en plus, j'articule une critique des gens qui le font maintenant. Alors, si ça m'étonne pas que ça me passe à 40 km. Ça veut pas dire que c'est pas dans génie divin.
Mais on pourrait parler aussi de liberté, parce que moi, j'ai l'impression qu'il essaie aussi de rendre les gens plus libres. Et si on veut parler des trois premiers romans, il dit aussi qu'il aimerait bien que ce soit lu en maternelle. Et il était pour un des projets, c'est d'apprendre la sexualité dès l'école.
Oui, ça c'est le côté provocateur et en même temps c'est le côté très conservateur, libéral. C'est-à-dire que là je retrouve le lien avec le droit. Tu vois, c'est-à-dire se libérer, bah, ça n'existe pas quoi, au sens. Tu vois, le schéma de la libération ou de la liberté, c'est dans le contrat libéral, c'est-à-dire la démocratie, le sujet politique du 18e siècle. Tu as le droit, tu as le contrat social, tu donnes ta souveraineté à quelqu'un qui te représente, et puis après tu vas être libre, et puis après on va te protéger. En ce moment, les gays mettent l'accent sur la liberté, on est libre de faire les enfants, et puis il faut nous protéger, on les tape dessus, et les ouin-ouin, le mariage, voilà. Voilà. Pour moi, ça se résume comme ça. Hein. Voilà. Donc le discours de la liberté au niveau politique, ça m'étonne pas qu'il tienne, parce que c'est le discours du droit. Le droit te promet toujours la liberté, et d'ailleurs, les droits, les devoirs et la liberté. Tu vois, tout ça, c'est le vocabulaire du droit. Parlons de, par exemple, voilà quelqu'un qui aurait pu, même avec l'angle du droit, aller sur Foucault, parce que Foucault a fait beaucoup de choses par rapport à ça, tu vois. Et Foucault a dit beaucoup de choses sur le corps, et Dustin dit beaucoup de choses sur le corps, mais je dis pas qu'il a pas vu, mais enfin, tu vois, il est pas allé sur... Alors qu'à l'époque, nous, on va sur le corps, mais le corps à la Foucault, disciplinaire, maintenant on est plus sur le biopolitique, on va dire, pour aller vite. Et on est complètement critique du discours de l'émancipation, du discours de la libération. Même de la libération sexuelle. Parce qu'on pense qu'il vaut mieux articuler tout ça avec le vocabulaire de la résistance. Par rapport au pouvoir. Donc, on analyse du pouvoir qui consiste à dire, quand tu dis je veux être libre et que tout le monde au pouvoir te rende libre, il dit oui, bien sûr, on va vous rendre libre, bien sûr. Donc on n'était pas du tout sur la même planète à ce niveau-là. Et ça explique, tu vois, l'angle mort là que vous percevez chez moi, qui est le droit, et parce que voilà. Donc oui, là ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Mais pour moi, ça c'est justement un discours. Évidemment, c'est plus facile dans les médias d'aller dire on a le droit de se marier, on a le droit de s'aimer, on a le droit, tu vois. Tout le monde a le droit. Mais ça, c'est une base individualiste de libération. Et c'est en plus le contrat libéral par excellence. C'est pas un projet collectif et pas un projet de politique queer. T'as le droit de niquer ton genre, t'as le droit de t'habiller comme tu veux, t'as le droit. Oui, mais ça, c'est l'individualisme. C'est le contraire de la politique. De la politique, c'est la politique traditionnelle straight. C'est pas la politique collective où là, bah, tu vas, une subjectivité, c'est pas moi, mon ADN et mon histoire personnelle. Mais ça, c'est vrai, c'est le côté littérature aussi, qui affirme plutôt le côté idiosyncratique des trajectoires. Et lui, il était entre les deux. Et quand il voulait dire des trucs militants, il a pas dit que des trucs par le biais du droit. Mais ça m'étonne pas qu'il en ait parlé, que ça m'ait complètement échappé.
J'ai lu la presse, l'individualisme, c'est fini. Et la drogue, on n'en a rien à foutre. Quant au sexe, n'en parlons pas. C'est bourgeois Et ça maintient les gens dans la domination. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que vous préférez ça comme ça ou comme ça? C'est le début de mon nouveau film. Comme ça ou comme ça?
Donc chez Dustan, il y a une espèce de tension comme ça entre cet aspect moderniste et un aspect plus queer, mais qui ne va pas jusqu'au bout.
Bah, je dirais un aspect gay, un aspect affirmation des cultures, des subcultures, des politiques sexuelles. Des politiques sexuelles, on n'a pas besoin de qualifier queer, pas queer. Des politiques sexuelles, communautaires aussi. Alors là, par contre, on trouve la dimension, on va dire, collective. C'est pour ça qu'on comprend qu'il parle beaucoup de style de vie, de vêtements. Donc c'est pour ça que, enfin, comme signe de reconnaissance, comme voilà, moi je vais dans le ghetto quand il dit oh, je suis content dans le ghetto, il trouve tout ce qu'il y a dans le ghetto pour lui, pour baiser, pour voilà. Bon bah oui, c'est aussi un espace que, alors maintenant il est en train de changer évidemment et tout, mais donc ça a été oui la création d'un espace aussi pour que cette subculture et ce rapport au corps complètement différent et ce rapport à la sexualité quand même un peu attirant, je dirais, parce que quand des fois ça fait pas envie la culture hétéro, je vais pas généraliser, mais bon voilà quoi. Donc là il y a des corps qui se déploient et de fait il le dit, il le fait, en plus c'est sadomaso, donc c'est fondamentalement un écrivain, donc il déploie, voilà, il parle de tout. Ça, c'est un peu le rôle de l'intellectuel, je dirais, public français. Hein. Mais alors après, si vous me dites, est-ce que c'est une pensée féministe, c'est quelle pensée féministe, du sens, tu peux pas le situer à aucun niveau du féminisme, ni de l'époque, ni des courants, ni du positionnement. Tu vois, c'est pas un adjectif féministe, c'est beaucoup de choses. C'est un univers référentiel. C'est après sa pensée militante ou sa pensée politique. Je sais pas, je trouve que vraiment c'est, moi je vois plutôt, c'est comme Duras, pour moi voilà, c'est comme Duras, la pensée politique de Duras, et c'est quelqu'un en plus qui a été militant, enfin je veux dire, qui a été militante, mais bon voilà, c'est du Duras, elle avait créé une langue, donc il y a des gens qui créent une langue, quand tu crées une langue tu parles de tout, donc tu dis aussi des choses politiques, connes ou pas, d'ailleurs, qu'importe. Tu vois, moi, je vois ça comme un tout. Je vois pas ça comme... Il y a un penseur, il y a un militant, il y a... Lui, je pense qu'il voulait dire des trucs pour se rendre intéressant, pour faire la provocation, mais aussi pour changer les choses, c'est vrai. Pour que les gens baissent mieux. Pour que... Voilà. Donc ça, c'est politique. Aussi.
Allô, Toutitos. Est-ce que tu préfères les radis ou la salade? Tu préfères les radis ou la salade? C'est pour mon film. Les radis, c'est sympa. J'enlève la salade. Parce que mon nouveau film, ça s'appelle Comme ça ou comme ça. Ça s'appelle Comme ça ou comme ça. Ouais. Donc c'est Comme ça. Ou comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Comme ça. Je signe. Comme ça. Ou comme ça.
Oui, bien, on voit que c'est un vrai sentimental. On sent aussi l'amour pour Marguerite Duras, autant dans ses écrits que dans ses films.
On parlait beaucoup de Marguerite Duras. En quelque sorte, on aimait Marguerite Duras parce que Marguerite Duras... elle a toujours souffert. Et donc, ce n'est que l'expression pure et simple. C'est même pas du sentiment, je dirais pas sentimental. Moi, je dirais que ça... Et c'est comme les bébés régurgitent. C'est pas du vomissement, c'est les nouveau-nés, ils vomissent pas parce qu'ils ont pas le temps de digérer. C'est avant même que ça arrive à l'estomac, ça ressort, quoi, ça régurgite. Et Marguerite Duras, c'est vraiment ça. Barrage contre le Pacifique, ça régurgite. Et je pense que c'est ça qui était William. Enfin, écorché, enfin. Il dégurgite des souvenirs ou un état qu'il n'a même pas pu digérer, qui ont pénétré en lui d'une façon définitive et qu'il ne digère pas, mais qui sont déjà en décomposition. Et ça ressort comme ça. Et dans Marguerite Duras, c'est pareil. Et donc la façon d'arriver à respirer, hop, il régurgite, et puis ça vous donne les ouvrages. Parce que sinon, les personnes ne peuvent pas survivre. Et ça vous donne aussi des personnes qui sont très douces et des personnes qui aiment beaucoup les enfants et qui veulent surtout les protéger, toujours. Et je pense que c'est pour ça qu'il voulait protéger les autres.
William, c'est quelqu'un qui transmettait de l'énergie. Ah ouais. C'est un type qui était définitivement dans la volonté de vous aider à sortir de la merde. Ouais, ouais. C'était vraiment quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui était très, 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 très positif dans son, il pouvait être très destructeur dans les rapports parce qu'il était chiant, machin, bidule. Mais grosso modo, si on doit prendre un trait, effectivement, subjectivement, même plus que subjectivement, je trouve que William est quelqu'un qui apportait beaucoup d'énergie à son entourage. Il était très valorisant. Il donnait beaucoup de force parce qu'il croyait à la force. C'était un solo, quoi.
C'est vrai.
Non, mais c'est très vrai.
Non, positif. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de force positive.
Après, il y a les moments compliqués où c'est un orage noir.
Enfin, ou un chien le premier.
C'est aussi quelqu'un qui peut te poursuivre, mais physiquement, quoi. Tu l'as dans ton dos et tu l'as pendant une demi-heure, qui te lâche pas d'une semelle et qui te matraque.
Oui, puis c'est un peu
des phrases.
Le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, j'avais rendez-vous avec Guillaume Dustan, qui était persuadé qu'on le trahissait parce qu'on ne rendait pas compte assez bien des livres qu'il publiait dans une revue gay dans laquelle je travaillais. Donc j'ai rendez-vous au Café Beaubourg à 17h avec Guillaume Dustan pour parler de ça, et je savais qu'il allait prendre la tête. Le 11 septembre 2001, comme vous savez, il s'est passé des choses. Donc moi, j'ai vu toute la journée, dans tous les endroits où j'allais, les tours s'effondraient. Et je rejoins, après le boulot, assez fatigué, parce que c'est fatigant, du temps, et il commence à me tomber sur le rable, mais à m'insulter dans tous les sens, à me faire chier. Mais comme jamais il m'avait fait chier, on a fait au moins 3 bars, on a vu toutes les télés avec les tours qui tombent. Il ne m'en a pas parlé une seule fois. Ça a duré 4 heures. Pendant 4 heures, on a dû faire 4 ou 5 bars. Et à aucun moment, il n'a même dit un moindre commentaire ou jeté un coup d'œil sur ces putains de télé sur lesquelles les tours s'effondraient. C'était quand même stupéfiant. Mais je m'en suis pris plein la gueule ce jour-là. Voilà, donc il a flingué mon 11 septembre. C'est un peu ça aussi, ouais. C'est assez symbolique, en fait, de ce qui s'est passé, parce que le 11 septembre, c'est quand même la fin de cette période-là. Parce que on peut quand même dire que la fin de la bêtise optimiste des années 90, de la machin, ça se termine le 11 septembre. Et je pense qu'en fait, il le percevait suffisamment pour le nier, en fait. C'est-à-dire, parce qu'il fait quand même de cet événement un non-événement.
Stéphane était mon dernier rendez-vous. Il m'avait dit qu'il pouvait pas me voir avant mon départ parce qu'il était trop occupé, mais j'ai pensé que c'était pour une raison plus profonde. J'ai pensé qu'il valait mieux que cet au revoir soit un adieu. Il devait passer me prendre chez moi pour déjeuner. Évidemment, je n'avais pas pu me lever le temps. J'avais encore passé la nuit dehors. Je lui ai ouvert la porte en pleine main attachée. Puis je suis immédiatement me remettre au lit. Il s'est assis sur le bord. On a parlé de lui, de moi, de son nouveau mec. Et puis comme on a été ému, on s'est pris dans les bras. Érection électrique. On s'est embrassé. C'était très fort. celui qui déshabille-toi. On s'est retrouvé à poil sur le lit. J'étais hyper excité. Je me suis dit que j'allais lui laisser un bon souvenir. Je me suis penché sur sa bite et je l'ai sucé comme jamais je l'avais fait jusque-là. En l'aimant, il a failli jouir. Je me suis relevé et j'ai dit « Qui baise qui ?» Il a dit « J'ai envie de te baiser. » Je ne me souviens plus comment c'est. J'étais d'accord. Je trouvais ça mieux que le contraire dans le contexte. Ça a été absolument super. Après, j'ai invité à déjeuner dans une brasserie idéale. On a bu comme des trous. On a ri. Il m'a accompagné en voiture. Je l'ai regardé partir. Sa jolie petite tête encadrée de profil dans la portière. Il m'a fait un signe de la main avant de redescendre la rue. La nuit était tombée. Je sais que j'aurais dû le quitter beaucoup plus tôt. Mais c'était tellement bon qu'il m'aime. C'était bon.
Avec les proches de Dustan, Lisa Rinkowska, Tim Madescler, Philippe Joanny, Marianne Frison-Roche et Sam Boursier. Merci à Sophie Baranès, Lisa Rinkowska, Julien Laugier, Pascaline Morin-Combe, Olga Rosenblum, Steph Duquetzal, Bertrand Lavasse, Arthur Vacher et le Théâtre du Petit Saint-Martin. Extrait des films de Dustan, Nietzsche et Nous deux. Extrait INA, Staccato du 8 janvier 1999 par Nicolas Demorand. Mixage, Philippe Mercher. Coordination, Christine Bernard. C'était Toute une vie, Guillaume Dustan, par Antoine Ravon, avec la complicité de Hugues Jourdain, réalisé par Gilles Mardi-Rossian.